une émission proposée et animée par Christine Baron.
On avait refermé la quatrième de couverture du mois d'octobre sur un doux rêve. Regarder les remorqueurs et voir des gondoles. Mais en cette fin octobre, juste avant l'annonce du confinement et au moment de lancer la quatrième du mois de novembre, on a du mal à imaginer les gondoles. L'horizon s'obscurcit, on n'y voit plus très clair. Ces changements d'heure, la brume de mer? Non, évidemment, le coupable, c'est le Covid. Alors, entre ombre et lumière, on a décidé de poursuivre notre rêverie et de vagabonder malgré tout, et de parler d'autre chose, sans nier bien sûr le côté dramatique que la situation sanitaire impose à tous, et à la culture évidemment, mais pour avancer coûte que coûte vers le bout du tunnel et essayer de rallumer la lumière partout où cela est possible, quitte à naviguer sans cesse entre regards légers ou graves, c'est selon. Ainsi, en octobre, on a été surpris par deux événements en lien avec nos préoccupations du moment. La Tour des Archives à Rouen avait enfin pu ouvrir, le 12 octobre, son exposition prévue en mars sur l'histoire du risque en Seine-Maritime et les politiques mises en place pour protéger les populations. Risques naturels ou industriels, anticipés, évités ou surmontés, sous un titre empreint de gravité, toxins et sirènes. Au moment où on décrétait le couvre-feu et un an après l'incendie de l'usine Lubrizol, drôle de coïncidence. Et presque au même moment, le 16 octobre à Paris, la troupe de Jean-Christophe Meurice, qui n'a peur de rien, et on les a vus plusieurs fois au volcan au Havre, on peut confirmer, ils n'ont vraiment peur de rien. Une troupe donc qui ose tout sur scène sans craindre l'outrance ou la vulgarité, présenter son dernier délire au titre blagueur, en phase lui aussi avec les événements sanitaires. La peste, c'est Camus, mais la grippe, est-ce Pagnol ? Drôle de cuisine littéraire. Est-ce qu'on peut parler de rire déplacé ou rire bienvenu ? Le raide, le touffé, le mécanique par opposition au souple, au vivant. Enfin, l'automatisme par opposition à l'activité libre. Voilà, en somme, ce que le rire souligne et voudrait corriger. C'est Bergson qui écrit cela dans « Le rire » en 1900. Alors, ombre ou lumière, on verra bien, on essaie, on se lance, et on ouvre le sommaire de ce mois de novembre si spécial. On évoquera d'abord avec plaisir, évidemment, quel plaisir, tous les bons moments du mois d'octobre dont on a pu profiter malgré tout. On ira ensuite, de l'autre côté de l'eau, écouter la quatrième de couverture qu'Anaïs Tondeur nous a livrée sur son travail de jeune photographe engagé. Elle participe au festival Planche Contact de Deauville et elle nous parlera de la couleur de la mer. Raphaël nous lira ensuite quelques pages de Nature humaine, le dernier roman de Serge Joncourt, qui vient de sortir de la première sélection du Renaudot, mais reste en finale pour le prix Fémina, qui, normalement, devrait être attribué le 3 novembre. On verra enfin ce qui nous reste pour le mois de novembre. Alors, on y va. On essaie de rallumer la lumière et de parler d'autre chose. Le mois d'octobre commençait à retrouver tout son éclat. D'abord, à Lyon, le cinéma avait été à la fête avec le traditionnel festival au si joli nom, le Festival Lumière. Un festival en l'honneur des frères Lumière, les ingénieurs et industriels géniaux, inventeurs du cinématographe, et dont la ville de Lyon entretient amoureusement la mémoire dans le quartier aussi joli nom, le quartier de Montplaisir. Lumière encore sur la vie culturelle en octobre avec le report de deux grands festivals de l'été, Cannes et Avignon. Contre vents et marées, Olivier Py avait réussi à sauver quelques dates pour ouvrir la semaine d'art le 23 octobre dans la Cité des Papes sous la pluie, mais juste avant le verdict de fin octobre. La semaine d'art, c'est un hommage à Jean Villard qui avait baptisé ainsi en 1947 l'événement qui deviendrait le Festival d'Avignon, la grande fête du spectacle vivant. Le Festival de Cannes avait enfin réussi à présenter une version ultra-light de la sélection 2020 du 27 au 29 après avoir été hébergé ici ou là et à Deauville notamment en septembre. Sur l'autre rive de la Touque, Trouville avait fêté, comme chaque année depuis 1996, l'une de ses plus célèbres résidentes. Le 3 et 4 octobre, les rencontres Marguerite Duras, les 25e, avaient réuni les amoureux des livres et des mots et de la voix inimitable de l'auteur de L'Homme Atlantique, à laquelle on pensait en passant devant les roches noires face à la mer. Dans de longues portées, la mer avance vers vous, vers les collines de la côte, écrivait-elle dans cette transcription de la bande-son d'un de ses films, un texte court comme une lettre d'amour. Et si Marguerite Duras a inventé une forme de récit écrit-parlé, il existe aujourd'hui des fictions qui conjuguent les mots et les sons pour embarquer les rêveurs sans effort. Ce sont les podcasts, ces récits sonores que l'on peut écouter n'importe où, grâce aux téléphones intelligents ou aux ordinateurs. Et la troisième édition du Paris Podcast Festival, qui a eu lieu du 15 au 18 octobre à Paris, a installé définitivement cette pratique dans le paysage culturel. Une pratique en bonne voie, pourrait-on dire. Et justement, le Muséum du Havre a offert aux curieux une soirée très originale en proposant le voyage sonore de Sophie Berger en marge de l'exposition sur les explorateurs et sur les voyages en Antarctique du commandant Charcot. Sophie Berger est une réalisatrice son qui crée des récits à écouter, des paysages sonores où elle mêle fiction et son pris sur le vif, comme dans cet extrait de 49 degrés sud, voyage en terre australe, une immersion originale au pays des manchots.
À la Manchetière de Crozet, sur l'île de la Possession. Dans la baie du Marin.
Enfin, pour terminer en beauté cette évocation des plaisirs d'octobre, très féminin finalement, il faut parler du beau spectacle de Pauline Bureau, auteure et metteuse en scène ultra douée, qui s'est emparée une fois de plus dans Féminine d'un fait de société, ici la reconnaissance du foot féminin à Reims dans les années 60, pour en faire un spectacle vibrant et bouleversant sur le bonheur de devenir qui on est vraiment. Du courage et des larmes sur scène et dans la salle aussi, des acteurs bouleversants et le bonheur du spectacle vivant retrouvé mais reperdu, on pourrait dire. On avait adoré Mon cœur sur le scandale du Mediator, on a hâte de découvrir en tournée un jour Hors la loi qui s'est joué à Paris en octobre sur le procès de Bobigny qui aboutira en 75 à la loi Veil sur l'IVG. Des femmes créatrices, des femmes émouvantes, des femmes engagées aussi. On en a rencontré une autre sur les planches à Deauville, là où le festival Planche Contact a pris place pour sa 11e édition. Un festival qui s'expose jusqu'au 3 janvier dans la station balnéaire mythique, marquée à jamais par Claude Lelouch et son Shabadabada. De l'ironie très british de Martine Parr au beau roman d'amour de Théo et Salomé, magnifié par Lorenzo Castore, des clichés éclatants de Mathias Depardon au beau portrait grave de Nikos Aliagas, il y en a pour tous les goûts. Un festival qui rend heureux, affirme Philippe Augier, le maire de Deauville, qui ouvre le catalogue du festival par cette citation de Marc Riboud, le grand photographe. Contempler un paysage, c'est comme écouter de la musique ou lire de la poésie, ça aide à vivre. Alors, on a contemplé le paysage et on a rencontré Anaïs Tondeur qui expose ses photographies devant la mer, en plein air, et tout cela le jour de l'inauguration, le 23 octobre. Elle nous a parlé de son travail comme pour une quatrième de couverture.
Ce projet est une série de photos que j'ai développée durant une résidence au mois de juin en Normandie. Une résidence en fait qui a été soutenue par la fondation Photo for Food qui soutient des photographes et vend des photographies au profit des plus démunis. Chaque photographie correspond à un grand nombre de repas chauds qui sont servis par le biais notamment de la Croix-Rouge. Donc ce soir, par exemple, il y a une vente aux enchères au profit de la Fondation. Et cette série, en fait, a été développée avec des océanographes du réseau REFI, du laboratoire en fait de l'Ifremer, qui suivent les flux de phytoplancton sur la côte normande. Et le point de départ était aussi pour moi la découverte d'une étude publiée dans Nature, une étude développée par les chercheurs du MIT qui observe la façon dont le phytoplancton se déplace, parce qu'en fait avec le réchauffement climatique les eaux deviennent de plus en plus chaudes et le phytoplancton a besoin d'eau plus fraîche, alors il se déplace vers le nord et leur déplacement, leur raréfaction dans les eaux normandes pourrait amener à modifier la couleur de la mer.
Donc c'est ça, donc là, puisqu'on est dans un festival de photographie, vous avez réussi à allier la science ou l'avancée, une avancée scientifique, une recherche scientifique à un travail d'esthétique.
Oui, alors ce que j'aime en soi, c'est utiliser la photographie comme une sorte de protocole d'enquête ou en tout cas un protocole qui vient aiguiser notre attention au monde et à des milieux de vie qui nous entourent mais auxquels on n'a pas obligatoirement conscience. Et justement là c'est assez simple en fait, c'est observer les changements de couleur de la mer. Alors cette couleur est liée à la lumière, à la réverbération de cette lumière, c'est lié aussi à la profondeur mais aussi à ce phytoplancton. Donc là, on arrive au titre de cette série qui s'appelle 487 nanomètres ou l'état chromatique de la mer. Et 487, c'est vraiment le point où on passe du bleu au vert. Et c'est ce qui pourrait se passer en fait pour les eaux normandes qui sont connues pour leur tonalité un peu virant un peu vers le vert. Et là, la disparition du phytoplancton amènerait à souligner leur bleu. Alors, pour décrire le protocole de création des photographies, en fait, le principe a été de réaliser chaque jour une photographie de la mer au même endroit, en fait, le long du méridien de Greenwich. Donc, j'avais un repère qui était en fait l'intersection entre la ligne d'horizon et la ligne du méridien de Greenwich, à chaque fois en pointant mon objectif vers ce champ chromatique. Et chaque jour, à la même heure, j'ai photographié la mer. Et l'idée est de reprendre ce protocole chaque année à la même période, dans l'idée d'observer sur un temps long cette transformation de l'environnement.
Oui, donc c'est tout à fait original, ce croisement de ce que je disais tout à l'heure, de l'esthétique et de la science. Et je crois que vous êtes très engagée par ailleurs ou d'une façon générale dans cette démarche aussi sur la planète, l'environnement, etc. Oui. Vous m'en aviez un petit peu parlé.
Oui, oui. En soi, j'ai une pratique qui est la photographie, la vidéo, l'installation, mais à chaque fois dans une démarche bien précise, qui est une démarche engagée, où je réfléchis à l'impact de l'action anthropique sur l'environnement. Donc c'est à chaque fois réfléchir aux enjeux environnementaux dans un travail très interdisciplinaire, parce que j'ai l'impression que pour faire face à tous ces bouleversements, on a besoin d'inventer ensemble, à travers une rencontre de pratiques, de savoirs, d'autres façons d'être au monde. Donc c'est pour ça que je vais travailler avec des océanographes, des géographes, des géologues, mais aussi des anthropologues.
C'est un projet extrêmement impressionnant, hein, et quand on dit que la culture ou l'art peut sauver, peut consoler, peut guérir, peut faire du bien, là vous êtes en plein dans cette démarche-là.
Oui, j'essaie. Oui, et justement je suis en train de commencer à composer une nouvelle série de photographies qui inclura peut-être de la vidéo aussi, où le principe là est de travailler sur le rire et le fou rire, de comment réagir à la crise sanitaire actuelle, comment respecter la distanciation nécessaire tout en générant une proximité, et il me semble que le rire peut permettre cela.
C'est formidable, je vous remercie beaucoup, merci, et bien sûr venons tous à Deauville jusqu'au mois de janvier pour découvrir toutes ces expositions. Merci Anaïs.
Merci à vous.
Les vertus du rire vivant et continuellement changeant et libre de Bergson, qu'on évoquait au début, inspireront donc les prochaines recherches artistiques d'Anaïs Tondeur avec bonheur, et on en aura tellement besoin. Après ce travail photographique engagé, on va se plonger dans Nature humaine, le dernier roman de Serge Joncourt qui sera peut-être couronné cette semaine par le prix Femina. Un roman plein d'humanité qui mesure lui aussi, à travers l'histoire d'un jeune paysan, l'impact du progrès sur la vie agricole, sur la nature, sur les paysages, et qui nous offre un voyage nostalgique dans les années 80 et 90. C'est Raphaël qui ouvre pour nous la parenthèse littéraire avec Nature humaine et sa quatrième de couverture.
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs en ce dernier jour de 1999 de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot, où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage l'arrivée des gendarmes. Seul, dans la nuit noire, il va revivre la fin d'un autre monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l'homme et la nature, la relation n'a cessé de se tendre. À qui la faute ?
Alexandre, partagé entre son amour de la nature et la tentation de s'engager dans des opérations militantes pour empêcher les ravages du progrès, retrouve Constance, la jeune Allemande de Berlin-Est, qu'il a rencontrée dans la mouvance du Larzac qui se rebellait en 70. Les années ont passé, là on est en 1991, en été 1991. Elle vient s'enivrer de nature et d'amour avec Alexandre, mais lui est inquiet et préoccupé par un projet d'autoroute qui menace d'anéantir tout ce qui fait sa vie à lui aussi et qui le console.
Plutôt que d'aller tout de suite à Saint-Afrique, rejoindre la petite communauté, Constance voulut d'abord faire un détour par le Rougier de Camarès. Elle tenait absolument à voir ces grandes étendues de terre rouge, ceintes de collines vertes. On lui en avait souvent parlé comme d'un coin de France qui ressemblait à l'Afrique ou à l'Inde. C'était surtout un prétexte pour être en tête-à-tête avec Alexandre. Elle n'avait pas follement envie de retrouver toute la bande si vite. Anton, Xabi, Adrien et tous les autres. Ce groupe dont elle se détachait peu à peu au fil des années. Alexandre accueillit avec méfiance ce besoin soudain qu'elle avait d'être seule avec lui. Redoutant qu'elle n'ait quelque chose à lui dire, qu'elle ne veuille lui parler de leur relation bien trop distendue. Peut-être qu'elle n'y tenait plus. Ils partirent par les petites routes baignées de lumière. Les arbres étaient tendus vers le soleil, leurs ombres collaient aux troncs. Les fenêtres de la quatrelle étaient grandes ouvertes. Avec la vitesse, il devint dur de se parler. Constance appuya sur la cassette qu'Alexandre avait déjà engagée. Sans le savoir, elle fit jaillir Cowboys and Angels. Alexandre fut gêné d'être surpris à écouter George Michael. Il n'avait pas anticipé cela. sans quoi il aurait mis une cassette de Bowie ou de Nirvana. Constance posa sa main sur son genou, en lui lançant un regard qui semblait dire « Tout est bien ». Pour aller se perdre dans les fameuses terres couleur de sang, il fallait remonter au nord sur 50 kilomètres. À un moment, ils traversèrent un petit village où Constance remarqua un restaurant au bord de la place. Le nom lui plut, l'hôtel des voyageurs. Sur la terrasse, il y avait une ardoise qui affichait en lettres blanches « Ici, menu VRP ». Ça veut dire quoi, menu VRP ? Ça veut dire qu'ils font un menu pour les représentants, les voyageurs représentants. Et le P ? Je ne sais pas, Constance. Tu veux pas qu'on s'arrête là ? J'ai faim, pas toi ? Dès qu'elle revenait, dans ces contrées reculées, Constance se faisait chaque fois rattraper par cette sensation de temps arrêté, trouvant cela exotique et reposant. En rentrant dans la salle de l'auberge, elle détailla tout comme on le fait dans un musée, l'étable en formica, le carrelage délavé, le papier peint au motif mille fois répété, une ferme avec un paysage, une scène colorée sur fond blanc. Elle passa la main sur le gros radiateur en fonte à la peinture blanche. Sa masse était bien fraîche, ça faisait du bien. Cette ambiance désuète l'apaisa. Et immédiatement, elle se sentit bien. Malgré la chaleur, ils s'installèrent finalement en terrasse. Et sans même réfléchir, ils optèrent pour le menu du jour. Entrée, plat, dessert. Constance s'émerveillait de tout. De la petite place devant eux, du vieux pont qui surplombait une rivière apparemment très encaissée, des maisons aux couleurs chaudes dont les toits de lauze se confondaient avec les collines. Sans rien vouloir contredire de son enthousiasme, Alexandre, pour sa part, avait l'image de ce que serait ce village dans 3 mois. Quand cette terrasse serait fermée, que le torrent en crue rudoierait les piles du vieux pont, que le brouillard épaulerait le froid et que les pierres des maisons sembleraient noires. Elle lui demanda des nouvelles de la ferme et il lui parla de cette histoire d'autoroute qu'il voulait construire au-dessus de la vallée, des cours qui s'effondraient. Il s'en voulut de noircir le tableau. Mais c'était la vérité. Alors pour nuancer, il lui dit que cette année, les fleurs de menthe sauvage sentaient bon comme jamais, qu'il y en avait des milliers. Marcher dans le grand pré sur la colline d'en face, c'était comme de plonger dans une mer de menthe fraîche.
Thank you.
Merci Raphaël. Et entre parenthèses, on aurait pu répondre à Constance que VRP, c'est l'acronyme de voyageurs, représentants et placiers. Voilà, on a quitté le Lot écrasé de soleil pour plonger dans une mer de menthe fraîche, verte comme les clichés d'Anaïs, et revenir à nos questions d'ombre et de lumière, bercées par la musique de Jordi Savall, et pas n'importe quel morceau. Un extrait de la superbe bande-son du film « Tous les matins du monde », parce qu'on espère toujours des matins qui chantent, des aubes lumineuses éclatantes de lumière, cette lumière qu'on voudrait rallumer coûte que coûte. Et puis, ce film écrit par Pascal Quignard, l'écrivain normand qui dit toujours « ma ville » en parlant du Havre, a été un grand succès de la fameuse année 1991. Cette année où Alexandre et Constance s'aimaient follement dans la lumière de l'été. Cette année 1991 qui fait sans doute revivre pour chacun de nous d'autres souvenirs émouvants. Novembre est bourré d'incertitudes cette année. Les contraintes sanitaires viennent d'annuler nos rendez-vous culturels. On pourra toujours profiter, si on n'habite pas loin, des expositions présentées à Deauville sur la plage et en plein air. Et on aurait pu, sinon, rencontrer Jean Rollin à la Galerne, aller voir Breaking the News, les Nordic These Days à Caen, qui remplaçaient déjà les Boréales, qui avaient été annulées et repoussées, le festival Piano is Not Dead et tout le reste. Anaïs Tondeur avait photographié les couleurs changeantes de la mer parce qu'elle révèle l'état de ses eaux profondes colorées par le changement climatique. Serge Encourt a fait d'Alexandre un jeune paysan du Lot, témoin douloureux d'un monde abîmé par le progrès débridé et sauvage. Alors on va écouter Dominique A qui s'indignait déjà en 2012 devant les parkings bondés, les paysages qui ne ressemblent à rien, et qui cherchait lui aussi la lumière. C'est une chanson extraite de son album au titre évocateur « Vers les lueurs ».
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Mensonges des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
On sait à présent qu'on ne pourra pas faire grand-chose en novembre. Le verdict est tombé, rideau, tout s'arrête. Alors, on attendra la fin du confinement. On pourra toujours relire Camus ou Serge Joncourt. On pourra se plonger dans les prix littéraires de novembre. On écoutera des podcasts ou des CD et on attendra des jours meilleurs en guettant les lueurs. Rendez-vous donc la semaine du 30 novembre, on l'espère, pour la quatrième de couverture de décembre sur Radio Albatros.
C'était la quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Baron.